Cette émission est une rediffusion. Couleur
tropicale. Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie ensemble.
Le soir, c'est couleur tropicale.
Dire les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Seule la lutte libère.
Vous avez commencé par éveiller ma curiosité.
Couleur tropicale.
Mais là, vous captez mon attention.
Couleur tropicale avec Claudicia.
Et Mathieu Salabert, Brittany Lenga, bonne arrivée la famille nombreuse, bienvenue pour une libre antenne, celle des auditeurs leaders, toi-même tu sais, c'est-à-dire vous toutes et vous tous, et ce moment est exceptionnel car nous avons des invités. Vous connaissez le numéro de notre WhatsApp 00336 37 42 62 24. Si vous souhaitez intervenir en direct, nous sommes là et surtout vous allez pouvoir assister et participer à l'élaboration, à la présentation d'un programme qui, pour nous, est un programme important. Pour les accueillir, à mes côtés, des membres de la famille, nous en attendons un qui est un peu en retard, mais elle est bien là, Laura Mbakov. Hello, chère Laura.
Comment tu vas ?
Et je vois Kerwin qui arrive à toute vitesse. Je l'ai vu passer. Ah non, ce n'est pas lui qui passait devant le studio 51. Écoute, moment bouleversant, période bouleversante. Qu'as-tu retenu dans l'actualité de ces derniers jours ?
Plein de choses.
Ouais.
C'est notre actualité, en fait, le système, la société est totalement perturbé. Et ce qui me choque encore plus, parce que ça fait partie d'une des questions que je vais poser
à nos invités,
c'est la position justement de la communauté noire dans tout ce contexte.
Ouais, dans tout ce qui se passe.
Exactement.
Pourquoi tu as l'impression qu'elle ne réagit pas, qu'elle n'interagit pas, qu'elle ne s'exprime pas ?
Pas suffisamment.
D'accord, bon, on va en parler avec nos invités. Notre libre antenne est un peu spéciale, donc ce soir, je vous le disais. En effet, nous consacrons ce moment à un programme dont nous recevons l'équipe fondatrice, en tout cas une partie. Un programme né sur les réseaux sociaux, devenu un rendez-vous nécessaire pour bon nombre d'afros désireux de cheminer sur les nouvelles routes de l'émancipation. Émancipation territoriale, indépendance sans surveillance, émancipation culturelle, spirituelle, cultuelle également, éducative. Après des siècles d'oppression, des décennies de maltraitance et de soumission, comment se construire ou se reconstruire ? Comment instaurer un dialogue constructif entre les populations et les individus concernés ? Un dialogue inclusif, nécessitant un travail et un travail individuel pour tendre vers le collectif, un travail profond et personnel pour justement, là encore, retrouver cette estime de soi. Le chantier est titanesque. Nous en voyons l'étendue, car les traumatismes sont profonds, et pourtant, rien n'est impossible. N'est-ce pas l'ambition, le moteur de ce programme au cœur des préoccupations de millions d'êtres humains que la férocité de l'esclavage et de la colonisation aurait pu définitivement écrabouiller ? Ce programme, ce sont les funérailles des tabous. Philippe Fabignon, également avec nous. Cher Alain Semevo et puis Ludovic Herman Wanda, merci d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour nous, le programme Les Funérailles des Tabous est un moment tellement important dans cet instant T où il y a à la fois une volonté sur le continent et dans les mondes afro en général de comprendre qui ils sont, de comprendre où ils doivent aller et puis surtout comment est-ce que l'on fait pour se réparer. Alors merci d'être là et merci déjà pour ce que vous accomplissez. Comment sont nées les funérailles des tabous, Philippe ?
Alors,
chacun donnera voilà, son mot, évidemment.
Je vais plutôt laisser Herman parler de cela et prendre la parole puisque c'était l'instigateur et la personne qui était au démarrage de cette émission.
C'est bien parce que tu devances mes questions, parce que j'allais justement dire à Ludovic, c'est toi qui... Moi, je me souviens de ce moment-là et des premières conversations et des premières émissions.
Alors, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que le génie dans la famille Imafidon, la famille la plus intelligente du monde, faut-il le rappeler, d'origine nigériane, ou que le vide intellectuel dans l'esprit de Jordan Bardella. Alors, la genèse des funérailles, la genèse individuelle, personnelle, humaine, auquel s'ajoutera la jeunesse, collective, jeunesse individuelle. Rendons à César ce qui appartient à César, ou à Césaire, certains diront. Régis Katayali Mutombo.
Ouais,
c'est lui qui est à l'origine, premièrement, du programme en me contactant. en me soumettant cette idée. Donc il est l'étincelle.
On rappelle qu'au Boutombo, il est à l'origine également de Business Africa.
De Business Africa également. Donc rendons-lui hommage, il me contacte. On comprend que l'histoire nous appelle pour casser la dynamique, le récit, le narratif SOS racisme, le narratif afro-calimériste, le narratif de la victimisation passive, et qu'à cet égard, lui, inspiré par l'identité anglo-saxonne, afro-anglo-saxonne, eh bien, il me fait comprendre qu'on ne peut pas rester les bras croisés, et les aînés dont tu fais partie, qui ont ouvert la voie, eh bien, attendre une nouvelle génération, qu'elle se retrousse les manches, plutôt qu'elle se contente de marcher sur le macadam à pleurer « aimez-nous, aimez-nous ». Donc il rentre en contact avec moi, la mayonnaise prend, on se met d'accord sur l'idée que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union d'efforts qui fait la force de l'union,
donc
il faut réunir les compétences. Et l'idée est plantée dans notre esprit d'abord à deux, chemin faisant, mois après mois, les rencontres se font avec Hervé, ensuite avec Loïc. On organise le premier tournage auquel tu viens nous donner une force incroyable puisque tu légitimes par ta seule présence et on t'en sera éternellement reconnaissant, eh bien, notre programme.
Stommy Bugsy était là aussi.
Stommy Bugsy était là également. Grand frère Stommy qui a soutenu aussi par la poche.
Oui.
Donc rendons-lui également hommage. Donc vraiment, c'est un passage de témoin d'une génération, la vôtre, qui a fait ses armes, qui, tant bien que mal, a réussi à faire honneur quand même à nos ancêtres qui n'étaient pas que esclaves, qui étaient aussi des rois et des princes.
On va en parler.
Non mais c'est bien que tu le dises. C'est pour contrebalancer l'introduction.
Ouais.
C'est important que les nôtres aussi s'identifient,
vrai,
à la souffrance, mais également à la royauté.
Mais
donc il y a eu ça. Et puis après, il y a eu un tournant. Un tournant s'est opéré lorsque Mbeko, maître Mbeko Tabula, est rentré à bord. On connaît son verbe tranchant, il a donné une impulsion sur le plan financier, sur le plan énergique. Et Philippe est venu clôturer la boucle pour constituer cette Dream Team avec Fleury en prime, je ne l'oublie pas, pour constituer cette Dream Team qui répond, j'insiste sur ce point, à un devoir collectif qui ne consiste pas à caresser les nôtres dans le sens du poil, mais à mettre au centre de notre réalité la nécessité de réfléchir pour agir efficacement et pas uniquement de s'émouvoir. Donc on s'inscrit dans la filiation de Mutunde, de Chekonta Diop, et pour remonter jusqu'à Narmer. Voilà un petit peu la jeunesse.
À la base,
Philippe.
Pour ajouter, à la base, moi en tout cas, j'ai rencontré Régis et mes amis aujourd'hui dans un cadre où moi à la base je suis producteur audiovisuel. Donc je fais des programmes, c'est vraiment ma vie, c'est ma vocation, et on vient me contacter pour sublimer cela. Amener du professionnalisme dans tout cela. Et effectivement, aujourd'hui, ça va faire un an et demi, presque deux ans. Et je pense que oui, on a donné une qualité que les gens reconnaissent aujourd'hui.
Alors, Philippe, le producteur, je me tourne vers Alain, qui est un entrepreneur, qui est l'homme du négoce, parce qu'il n'est pas facile de tenir un tel programme lorsqu'on n'est pas sur les moyens qu'il faut et que vous mettez à disposition, lorsque l'on n'est pas sur les médias mainstream et lorsque l'on n'a pas forcément peut-être les financements que l'on voudrait.
Personnellement, pour moi, c'est Philippe que j'ai rencontré au début. Et le courant est passé. Je pense qu'on a passé pas mal de temps à parler ensemble.
À discuter.
Je suis allé dans ses locaux et on a beaucoup parlé d'Afrique, de sa vision, de la vision que moi aussi j'avais personnellement. Et il appréciait un peu le boulot que je faisais sur Internet, que ce soit dans les différents business. Par exemple, on a parlé de négoce et aussi du business que je fais avec la Chine, dont on va en parler tout à l'heure. Donc après, il m'a invité justement à l'émission pour qu'on fasse une émission ensemble avec bien évidemment Eman. Et c'est comme ça un peu qu'on on est resté en contact et tout, et que l'impulsion s'est faite avec Philippe.
Et puis les conférences, j'ai l'un de mes amis d'enfance qui me dit « Mais attends, Alain Semevo sera là, mais tu sais que moi je voulais que tu le rencontres, je voulais te le présenter, je voulais que tu fasses une émission avec lui. » Et il m'a appelé tout à l'heure, je lui ai dit « Mais oui, il est là. » Donc voilà, il m'a parlé de Nicolas, il m'a parlé de Benjamin, de l'équipe, c'est ça ?
Ça, c'est beaucoup plus l'équipe au niveau de funérailles.
Bon, bah d'accord, bah voilà, mais il m'a parlé de tout le monde. Kerwin Maïso est là, il nous a rejoint. Bon, arrivé, mon cher Kerwin.
Bonjour à tous.
Donc, je vous présente Laura et Kerwin. Ils vont tout à l'heure vous poser leurs questions. Et puis, il y a également nos auditeurs qui sont avec nous, qui vont aborder d'autres sujets. Et peut-être que vous pourrez réagir justement au sujet qu'ils ont choisi. Boubacar, depuis Thiès. Bon arrivé, Boubacar.
Merci, bonsoir Claudie.
Et Thiès va nous parler du retrait des troupes françaises en Afrique, c'est ça, hein?
Oui, particulièrement au Sénégal.
Mmh. On va en parler dans quelques instants, mais le président, justement, le président sénégalais sera en visite officielle en France.
Ah oui.
Ben oui.
On visite de malheur. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Hein.
Mmh. Ben oui, ça a été annoncé, on a vu ça dans les médias, visite officielle. Donc voilà, je pense qu'il sera question de tout ça.
C'est la première en Europe.
Mais oui, ce sera la première. En tout cas, au cours de cette libre antenne couleur tropicale consacrée aux funérailles des tabous, nous aborderons bien des sujets avec nos auditeurs leaders. Et puis, nos conversations tourneront évidemment autour, et j'en suis certain, du panafricanisme qui, j'ai envie de dire même, est un peu le moteur des funérailles des tabous aussi. C'est l'un des moteurs, en tout cas, en termes de réflexion. Oui.
Oui, absolument. En tout cas, l'unification du monde noir, l'unité, c'est... En plus, avec le son reggae derrière,
exactement.
On est sur l'unité.
Burning Spear, All Marcus Garvey.
No one remember All Marcus Garvey. No one remember All Marcus Garvey.
C'est le titre, et ce titre-là est culte, Burning Spear, All Marcus Garvey. Que représente Marcus Garvey dans votre panthéon à vous, Herman?
Un lion rugissant, un lion ailé. C'est, faut-il le rappeler, le premier afro qui, au cœur du 19e siècle, début 20e siècle, a incarné la renaissance de la dignité, la renaissance de la noblesse afro, dans la mesure où il a à la fois porté un message fort, un message de repli, et pas de défaite, mais de repli vers le continent, ce qui n'était pas une mince affaire à l'époque. Et surtout, il a mis l'accent sur l'excellence.
Exactement.
Voilà, ça c'est un point fondamental auquel nous sommes très attachés. Donc c'est le panafricanisme au service de l'excellence, et l'excellence au service du panafricanisme. Alors, voilà ce que représente à mon sens Marcus Garvey.
Alors Marcus Garvey qui nous a quittés le 10 juin 1940, le 10 juin qui est le jour de l'application de l'abolition de l'esclavage en Guyane. Et je trouve qu'il y a parfois comme ça des dates symboliques. On va évoquer une autre date tout à l'heure, une date très, très haïtienne. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose?
Non.
Fait sur Marcus Garvey. Et puis, alors tu as parlé d'excellence. Et je sais que pour toi, l'excellence va de pair également avec... avec le langage, avec la richesse du vocabulaire, parce que c'est une liberté, et c'est justement ce que prenait Marcus Garvey.
C'est le moins qu'on puisse dire, merci de le rappeler, parce que certains pensent que je mets l'accent sur le verbe uniquement de manière esthétique, alors que quand on étudie de façon sérieuse, on sait que quand on n'étudie pas le langage, on n'a rien étudié. Au commencement est le verbe. La construction de l'individu passe par la construction de sa maîtrise de son logos, de l'art de raisonner, de l'art de questionner le monde, et ça passe par la maîtrise des mots. Certaines communautés l'ont compris, d'autres l'ont moins compris. Et le plus tristement drôle à notre échelle, c'est qu'on a été la première communauté à avoir saisi l'Égypte antique par l'intermédiaire du dieu Thoth, et bien incarner l'écriture et la vérité. Donc moi j'essaye à mon petit niveau, je ne suis pas le seul, je m'inscris dans la filiation de Garvey, et bien transmettre cette passion des mots, mais surtout cette passion de la force. La force intellectuelle qui pourra ensuite nous permettre de conquérir les espaces économiques, culturels, politiques, mais ça commence d'abord par l'espace mental.
Vous avez reçu de nombreux invités, évidemment, au cours des différents programmes des funérailles des tabous. Le panafricanisme a souvent, évidemment, été évoqué. Je voudrais que l'on écoute un entretien avec le professeur Lasconi.
Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence.
Ce n'est pas l'exclusivité d'une personne. Le panafricanisme nous appartient à tous et je me réjouis qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'en réclament. Mais il y a aussi des imposteurs dans le mouvement panafricain. Je ne suis pas ici pour indexer les gens, faire de la délation. Nous ne sommes pas ici pour ça, nous sommes dans une démarche constructive. Mais rappelez quand même qu'il y a un minimum. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien sans avoir lu au moins deux passages de la Bible.
On est d'accord.
Donc c'est en cela qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Je me réjouis de cette invitation parce que j'aurais raté quelque chose. Donc c'est l'occasion pour moi de rappeler que le panafricanisme, c'est avant tout la manifestation de l'excellence. Vaincre la plus grande armée du monde, c'est l'union fait la force, la devise d'Haïti. Qu'est-ce qui peut mieux incarner le panafricanisme que la devise d'Haïti, l'union fait la force? Parce que quel est l'objectif du panafricanisme? C'est l'aboutissement, c'est créer un État fédéral.
C'est très important, essentiel ce qu'il dit, c'est pour ça que nous souhaitions prendre cet extrait-là, parce qu'à la fois il y a dans son propos une volonté d'unité, d'unification entre les mondes afro, en rappelant justement la révolution haïtienne, en rappelant que le 18 novembre 1803, l'armée de Dessalines a mis en pièces le dernier corps expéditionnaire français, venu donc envoyé par Napoléon pour y rétablir l'esclavage, et puis aussi, c'est une façon de rappeler à beaucoup, parce que beaucoup de nos jeunes engagés, sincères, ne le savent pas, mais le panafricanisme originel est né sur ces terres d'esclavage, de servitude et d'espoir. Philippe, Alain, qui souhaite parler? Qui souhaite répondre? Ou Herman?
Non, effectivement, moi je suis... Comment ne parler dans ton sens? C'est l'histoire qui est là, effectivement, donc elle est incontestable. Le panafricanisme, c'est l'excellence. Je tenais aussi à dire que moi, Marcus Garvey, je l'ai redécouvert et je conseille à tous les gens d'aller écouter cette émission avec le professeur Lasconi parce qu'il nous dévoile un homme qui, avec de multiples facettes. Aujourd'hui, effectivement, Marcus Garvey, on peut parler du logos, du verbe, mais c'est aussi économiquement quelqu'un qui a su s'organiser, qui a le fameux terme « back to Africa » qui a inventé cela avec cette fameuse terre au Liberia pour retourner là-bas.
C'était un armateur, il faut le dire aussi.
Absolument.
Il fut armateur.
Absolument.
Il n'a jamais foulé la terre africaine.
Malheureusement. Mais oui. L'idée était exceptionnelle. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des héritiers à cela. Et on le voit de plus en plus émerger sur Internet et autres. Et je trouve ça extraordinaire, voilà.
Et surtout, il a créé la plus grande organisation noire qui puisse exister dans le monde. Ouais. Et ça, on n'en parle pas beaucoup à l'époque déjà.
Exactement.
Moi, j'aimerais rajouter un petit point. C'est qu'on se doit d'honorer nos héros tout en se devant d'émettre parfois certaines réserves des critiques constructives. Le complexe d'Œdipe, nous devons également l'entamer. Marcus Garvey, au même titre que le professeur Lasconi, soulignait l'importance de la libération. Beaucoup de jeunes reprennent ce slogan. Simplement, à côté de la libération, il y a un deuxième combat à mener, celui de la liberté. Qu'est-ce qu'on fait quand on est libre? Quand on grandit en cité, on n'est pas face à des armées, pour autant, on doit exister. Eh bien, quand on est enfermé uniquement dans l'idée de libération, on est tourné vers l'autre, vers un ennemi potentiel, on oublie que le premier ennemi, c'est d'abord nous-mêmes.
Exactement.
C'est d'abord le rapport à nos pulsions, c'est d'abord le rapport à notre ignorance. Et à mon sens, le combat prioritaire aujourd'hui, c'est d'apprendre aux nôtres, sans prétention aucune, mais avec nos compétences respectives, à être libre de manière forte, avant de penser à la libération collective.
Merci beaucoup de le dire ainsi, parce que nous ne cessons de répéter aux jeunes lors de rendez-vous, de conférences, en leur disant « Ne soyez jamais dans le regard de l'autre ce qu'il pense que vous êtes, mais libérez-vous de ça justement, soyez, et puis poursuivez votre route. » Alors, je vais faire un parallèle qui va peut-être vous sembler un peu léger, mais il ne l'est pas tant que ça. Lorsque Omar Sy est attaqué pour son film Tirailleurs et qu'il dit « Vous ne pouvez plus rien contre moi, je suis trop loin », c'est ce qu'il dit en réalité.
Exactement.
Il dit « Je suis... dites ce que vous voulez de moi ». Laura.
Alors, vous avez en partie répondu à ma question, mais je vais quand même la poser,
oui.
Puisque en fait, ma question était de savoir comment est-ce que se positionne votre émission. Est-ce que c'est une émission panafricaine ou une émission des diasporas? parce que pour moi, je ne définis pas forcément de la même manière. Panafricain, pour donner vulgairement, c'est avec une idéologie, mais tous les Africains ne sont pas forcément panafricains. Et surtout dans le contexte actuel, avec la situation qu'on connaît en France, les différences qu'il y a entre les diasporas, enfin je veux dire les communautés africaines et afro-descendantes, parce qu'elles n'ont pas la même réalité, ça c'est véridique, et aussi la fracture qu'il y a entre les Africains du continent et les Africains de France, qui est montante. Je voudrais savoir comment est-ce que votre émission s'impose et cristallise en rassemblant toutes ces communautés-là.
Alors, c'est une excellente question, il faut bien le dire. L'émission, initialement, s'inscrit dans un horizon donc de renaissance, on l'a dit, par l'excellence collective, mais d'abord par l'excellence individuelle. Donc, évidemment, on obéit à ce chemin du panafricanisme, mais avant d'être panafricain, on est d'abord des humains. Ça ne sert à rien de se dire panafricain si on n'est pas diplômé, si on n'a pas d'ambition, si on est enfermé dans des pensées négatives, dans des pensées limitantes. Donc nous, à travers cette émission, on n'a pas la prétention de pouvoir transformer le monde en un claquement de doigts. En revanche, on a la prétention d'animer en chacun l'envie de se retrousser les manches et de réfléchir individuellement, de réfléchir collectivement. En somme, de tordre le cou de façon définitive au mot de Senghor, l'émotion est nègre. Ça, c'est vrai à l'échelle du peuple, mais pas que du peuple afro. Tous les peuples du monde sont émotifs. Seuls ceux qui accèdent à l'élévation par l'éducation, par la lecture, par la réflexion collective, accèdent à la rationalité. Donc nous, notre objectif, en tout cas tel qu'on l'a défini initialement, c'est celui-ci. Permettre aux nôtres de se libérer de cette émotivité, en plus démultipliée par les réseaux sociaux, par la société de l'émotion, afin au moins qu'une portion d'entre elles ouvre la voie vers cette émancipation par la pensée et après par des considérations économiques sur le continent, pour revenir, pour clôturer ma réponse.
Celles et ceux qui nous écoutent, qui peut-être découvrent ce programme parce que nous l'expliquons, parce que nous en parlons, mais qui n'ont encore rien vu ou rien entendu, rappelez que vous êtes à la fois sur Instagram, il y a une chaîne YouTube également, sur tous les réseaux sociaux, et que tous les programmes sont disponibles. J'essaie d'être très factuel, hein, c'est pour que donner envie aux autres d'aller voir.
Attends, alors, tous les programmes sont disponibles, là il y a des nouvelles choses dont je vais parler.
Il y a quelques nouveautés.
Oui, YouTube, Instagram, TikTok, tout le monde, voilà, on essaie d'être présent sur tous les réseaux, et je voudrais répondre à Laura. Avant d'être panafricain, on est sur l'unité. Je l'ai dit tout à l'heure, le mot unité, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a l'Afrique, il y a les Antilles, il y a aussi des autres noirs, je parle d'être noir, dans d'autres parties du monde. Et les funérailles des tabous aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un microcosme qui est plutôt parisien, mais on a cet objectif de pouvoir aller s'ouvrir au monde et ramener tous ces gens qui sont à travers le monde, un peu comme les X-Men, si tu veux, et pouvoir leur donner la parole et parfois pouvoir découvrir dans des endroits improbables. Je vois la Chine, on parle du Japon, où il y a des communautés afro et qui aimeraient communiquer avec d'autres. Et ça, nous, on est fédérateurs, on veut être un lien. Voilà.
Et puis rappeler que l'Afrique est partout et que les mondes afro sont dans les Caraïbes, sont en Kanaky, sont
absolument en Israël avec
les Falachas. Exactement.
Exactement. Et dans ces terres australes, même s'ils ont été chassés de Tasmanie, exterminés, et puis les derniers survivants chassés, et puis en Australie également. Kerwin.
Le funérailles des tabous a choisi une voie qu'on peut qualifier d'iconoclaste dans le traitement des informations. Avez-vous choisi une niche porteuse en termes d'audimat, ou c'est un choix militant par rapport à la toute-puissance du cartel médiatique mainstream occidental? Et subsidiairement, j'aimerais savoir, comment voyez-vous la presse mainstream occidentale? Est-ce des manipulateurs pour que vous ayez ce besoin d'exister?
Alors, c'est une très bonne question, merci de la poser. On ne s'inscrit pas dans une dynamique d'observation à l'égard de la presse mainstream. En revanche, on observe les manquements qui sont, hélas, qui font défaut et qui causent beaucoup de tort aux nôtres, que ce soit ici, que ce soit sur le continent. Le manquement qui se résume avec une phrase: l'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé, confère Steve Biko. L'esprit du dominé, les nôtres, cet esprit qui manque de modèle, cet esprit qui manque justement de volonté positive, cet esprit qui manque de mots et de modèles, qui a pour modèle qui connaissent davantage Booba que les textes de Césaire, qui connaissent plus Nino que les textes de Cheikh Anta Diop. Voilà nous dans quoi on s'inscrit. C'est véritablement, vraiment j'insiste, la renaissance par la prise de conscience de notre potentiel et le déployer. Donc, ce qui se passe sur CNews, sur TF1, on le regarde d'un œil, parce qu'on se doit quand même d'être un minimum informé. Néanmoins, à côté de ça, quand on voit les exemples portés par des Claudiciards, par des Alain Foucault, on comprend que c'est dans l'autodétermination et l'autocompréhension de nous-mêmes, dans l'autoréparation, qu'on pourra atteindre un objectif, j'allais dire, noble et profitable à tous.
Le professeur Lasconi évoquait, sans ne jamais jeter l'opprobre sur eux, et je pense que c'est mieux, c'est la posture qu'il faut avoir, il parlait de certains panafricanistes qui ne le sont pas. Alors, moi, je préfère toujours ajouter qu'ils sont sincères, mais que parfois, certains cherchent une existence sociale, ce que l'on peut comprendre. Je voudrais vous faire écouter un extrait d'une chanson culte. James Brown, Say It Loud, I'm Black, I'm Proud. James Brown n'était pas un afro-américain très engagé, mais au moment où il signe cette chanson-là, ça bouge aux États-Unis, les mouvements, alors les droits civiques certes, mais surtout les Black Panthers bougent, et il s'oblige, il arrête de se défriser les cheveux, il a une coupe afro, et il fait ce titre-là. Avec des enfants. Ça me permet de rejoindre la question de Kerwin tout à l'heure. Cette chanson-là, peut-elle être considérée comme une chanson que l'on pourrait mettre dans la discothèque panafricaine? Je vous pose la question. Ou est-ce une chanson opportuniste?
Je pense que, par moment, l'opportunisme répond à une nécessité, à une opportunité. James Brown, initialement, en effet, il ne pensait qu'à se gominer les cheveux, à faire des twists. Et puis, au final, il se retrouve quand même à Kinshasa en 1974.
Eh oui.
Pour soutenir le match du siècle, le combat du siècle.
Avec The Spinner.
Voilà. Donc, parfois, ouais. Comme on dit, les hommes font l'histoire sans savoir qu'ils la font. Et je pense que James Bond a été contraint de faire l'histoire. Initialement, il n'avait pas l'intention et au final, il s'est retrouvé en première ligne.
Et puis, artiste de grand talent,
c'est
quand même.
Qu'on puisse dire.
Boubacar, que nous retrouvons depuis Thiès au Sénégal. Boubacar, nous t'écoutons.
Bonsoir Claudie.
Bonsoir
Boubacar. Bonsoir à toute la famille de l'hôpital.
La famille.
J'ai juste mon sujet à traiter. C'est-à-dire, moi je vais demander la question à savoir pourquoi avec les enfants en Afrique et pourquoi le problème est de plus en plus fréquent. Parce qu'aujourd'hui on a remarqué que la France. Aux États-Unis, mais surtout actuellement au Sénégal, au Tchad, au Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi ce problème est de plus en plus fréquent aussi? Est-ce que les Africains, plus particulièrement comme un pays du Nord, comme le Sénégal, est prêt à partir sans la France? Parce qu'on peut dire qu'on utilise sous de la France déjà la langue. La langue française que nous avons utilisée, notre monnaie est garantie par la France. Ça, est-ce que aussi, si la France quitte et amène ses ressources comme elle l'avait fait en.
Boubacar, la liaison n'est pas terrible, mais on a compris en tout cas la question donc sur à la fois pourquoi sont-elles là. Alors aujourd'hui, il y a le retrait des troupes françaises militaires. Parfois sous la contrainte dans certains pays, mais c'est le sens de l'histoire, c'est-à-dire que l'émancipation que beaucoup souhaitent, alors chacun met ce qu'il veut autour ou dans le mot émancipation, mais c'est dans l'ordre naturel, si je puis dire, des choses, et dans le sens de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, on décolonise vraiment. Avez-vous un avis sur ça, sur les troupes françaises, puisque c'est le propos de Boubacar?
Alors, il faut rappeler quand même que la France reste le seul ex, entre guillemets, empire colonial à maintenir leur armée sur un territoire extérieur. L'Angleterre n'en a pas, qui était pourtant le plus grand empire. Ouais. Donc symboliquement.
Mais elle a des bases dans quelques pays.
L'Angleterre,
oui.
Afrique.
Ah non, oui, Djibouti, ils sont tous à Djibouti.
Ah voilà, ils sont tous à Djibouti.
Les Djibouti, c'est les Américains, les Chinois, voilà. On n'a pas les Anglais officiellement.
Pas officiellement.
Ouais. Non, ils n'y sont pas en fait.
Voilà, mais symboliquement, oui, c'est sûr que la population, surtout maintenant à l'heure des réseaux sociaux, les peuples s'unissent et agissent en fonction de symboles. Donc le fait qu'il y a une armée étrangère sur ton sol, c'est comme un fusil sur ta tempe.
Bien sûr.
Donc, d'une certaine façon. Donc là, effectivement, le fait que la France parte, c'est fondamental, c'est nécessaire. Maintenant, ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. C'est que à côté, si la France part, mais pour que d'autres viennent, si elle est remplacée, finalement, on demeure des grands enfants.
Exactement.
Voilà. Donc c'est là où il faut rester, à mon sens, un minimum vigilant. Sans tomber non plus, dans une victimisation gratuite.
Oui. Non, moi je trouve que c'est quelque chose de très encourageant que les troupes françaises partent. Il y avait des accords qui étaient signés, que tu connais probablement, que la Côte d'Ivoire a signé aussi.
Bien sûr.
Qui donne
mais
aussi...
il n'y avait pas le choix à l'époque de la décolonisation en 60, il n'y avait pas le choix.
Absolument, il y a une personne d'un amant que j'ai interviewé qui parlait de cette décolonisation, qui en fait n'en était qu'une façade à une fumisterie, et que la décolonisation, la vraie décolonisation commencerait maintenant, aujourd'hui, et que c'est une histoire qui est à remarquer et qui est remarquable, et donc faut saluer cela. Aujourd'hui, il faut aussi savoir qu'un soldat, et je ne vais pas m'attarder, mais un soldat français, je crois, qui tue quelqu'un sur le territoire sénégalais, qui pouvait tuer quelqu'un sur le territoire sénégalais ou ivoirien, n'était pas jugé sur ce territoire. Il était jugé en France. Il ne devait rien à ces gens qui étaient de la population locale. Donc c'était... Mais il y a des injustices. Et aujourd'hui, je pense que c'est remettre la justice au centre que de dire à ces armées, repartez, allez défendre notre pays, qui est le vôtre.
Alain, toi qui es en Chine, quelle perception ont les Chinois, monsieur et madame, tout le monde, de cette Afrique, justement ?
De ce que moi je vois sur le terrain, en tout cas en Chine, les Chinois connaissent très peu l'Afrique. Si on quitte le cadre des hommes d'affaires, du business, ils connaissent très peu. Et dans tous les cas, les Chinois ne sont pas très politisés. Donc souvent, ils n'ont pas d'avis sur ces questions-là. Ça va beaucoup plus être dans le style, est-ce qu'on peut faire du business ou pas ? Est-ce que, si les militaires sont là ou pas, est-ce qu'on continue à faire du business ? Et les Chinois sont vraiment dans cette mentalité business, en fait. Donc pour eux... Tant qu'il y a du business, la guerre n'est pas bien pour le business, donc non, on continue.
Ça évite les rapports de dominant à dominé.
Exactement, parce que je sais que beaucoup de personnes se disent que si les Français partent, il y a les Chinois qui vont venir, ou il y a les Russes qui vont venir, etc. Personnellement, je ne pense pas que la Chine est dans cette mentalité de venir planter une armée dans un pays africain pour... Parce qu'ils voient que les gens ne veulent pas, donc ils sont très intelligents, ils savent qu'ils ne vont pas répéter les erreurs des autres. Donc ça va vraiment être dans un cadre purement business.
On va retrouver à Maroua, au Cameroun, Young King. Bonne arrivée, Young.
Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. C'est le rappeur tchadien Young King depuis le Cameroun, précisément à Maroua.
Mais tu sais quoi, je me suis demandé, est-ce que tu prenais le nom du rappeur ou est-ce que tu étais le rappeur toi-même ? C'est bon, ça me rassure.
C'est moi-même le rappeur.
Alors justement, tu voulais parler de réussite et de vie réussie, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, voilà, ma question est la suivante. Il y a cette phrase que tout le monde aime répéter, je dois réussir dans la vie. Alors moi je veux savoir, est-ce que notre but sur cette terre est de réussir ou on peut simplement vivre heureux sans réussir ?
Alors tout dépend ce que l'on met dans le mot réussite. Ouais. Mais alors, on va laisser nos invités rapidement. Oui, Alain ?
Personnellement, je pense qu'en tant qu'Africain, la réussite... première, au-delà du bonheur, de ce qu'on va entendre, comme tu le disais, dans la réussite, c'est déjà financière. Parce que quand on n'a pas l'argent, on n'a même pas droit à la parole, certaines fois. Mmh. Je pense que quand cette réussite en tant que communauté, c'est important de manière individuelle d'avoir une certaine réussite financière. Ça permet aussi de financer son idéologie, sa cause, et de ne pas dépendre d'autres personnes aussi. Parce que la main qui te nourrit, on la mord pas.
D'accord. Ouais, c'est étonnant. Donc, oui. Qui a un autre avis ?
Alors, il y a la réussite matérielle que tu évoques, qui est très importante, sortir de la survie. Hein. Et à côté de ça, s'ajoute la réussite psychologique, le fait de rencontrer sa vocation.
Voilà.
Voilà, de rencontrer son feu intérieur et de le réaliser.
Je suis plutôt attaché à celle-là.
Et cette réussite, effectivement, peut aller au-delà de cela. Ça peut être de créer une famille. Parce que j'en parlais justement ce matin avec une personne qui me disait, tu sais, quand tu arrives à la fin de vie, tout ce qui est matériel, ce sur quoi on est très attaché, n'a plus aucune valeur. Et c'est une personne qui accompagne ces gens en fin de vie et qui me disait la première chose que ces gens, auxquels ces gens pensent quand ils partent généralement, c'est ceux qui vont leur tenir la main et ceux qui vont venir les voir, ceux qui vont les accompagner. Ouais. Et donc je pense que la réussite, elle peut aussi se situer à ce niveau-là, aussi au niveau de ce que tu as fait autour de toi, l'amour.
Oui, mais c'est des gens qui étaient riches.
Alors,
non,
puis-je dire.
Je suis désolé. Alors, attends, c'est bien ce débat. Non, non. C'est des gens qui étaient riches.
Puis-je dire quand même que la. Et merci Philippe, que la plus belle des richesses, lorsque l'on arrive à l'automne de sa vie, c'est de.
Sa famille.
Oui, alors il y a sa famille évidemment, mais également c'est tout ce que l'on sait de l'humanité, tout ce qui nous nourrit spirituellement, tout ce qui nous nourrit intellectuellement, tout ce que l'on comprend du fonctionnement de l'humanité, du monde et du vivant. Je trouve que c'est la plus belle des richesses, c'est ça. Alors après on peut regarder, se dire j'ai une belle piscine, une belle maison, une belle voiture et ma femme est magnifique. Mais on peut quand même se dire ce qu'il y a dans notre cerveau, on va partir avec quoi.
Là je te rejoins, si je puis dire, c'est que là. À mon sens, le point d'orgue, le sommet de la réussite, c'est la transmission.
Et oui,
c'est ce que j'allais dire.
Voilà, c'est quand le grand-père, qui est devenu une bibliothèque vivante, parvient à transmettre des tonnes et des tonnes de savoir à ses petits-enfants. Pour moi, les peuples qui réussissent, c'est les peuples qui transmettent.
Exactement. Mmh. Et nous, il y a une coupure dans cela, justement. Quelqu'un disait tout à l'heure, c'est Boubacar qui disait on parle français, on ne saura jamais ce que nous aurions pu être s'il n'y avait pas eu ces épisodes d'esclavage et de colonisation. Et dans le même temps, il ne faut pas rester bloqué sur cette histoire-là, mais nous sommes des êtres humains et il y a quelque chose à construire, ou certains diront reconstruire. C'est pour ça que ce sont les mots que j'ai employés dans le sommaire tout à l'heure. Merci beaucoup, Yong King. Et puis on attend les derniers sons. Hein.
D'accord, et j'aimerais que... Que ma chanson passe aussi, je couleur
pour toi un jour. Vas-y, envoie le son, on va diffuser. Envoie le son et on va diffuser, évidemment. Fabrice depuis Abidjan, très vite. Bonne arrivée, allô, Fabrice.
Bonsoir. Oui, bonsoir Claudie, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Alors déjà, avant de proposer, je tiens d'abord à m'arrêter une minute ou 30 secondes, 20 secondes, à remercier et féliciter Claudie Chia. Parce que nous, depuis tout petit, on a écouté Couleur Tropicale et on a été baissé par tous ces débats et par toutes ces leçons. Aujourd'hui, on a la possibilité de prendre la parole et de dire ce qu'on pense. Et vraiment, je vous dis, vraiment merci beaucoup. Et vous ne savez pas combien de fois des jeunes comme moi sont touchés parce qu'il y a des gens comme vous qui prennent la parole et qui osent donner la parole à la jeunesse et à la jeunesse africaine. Donc, merci beaucoup.
Merci.
Alors, moi, ma question, c'était sur... La possible arrivée au pouvoir de RN. Alors, dans leur vision, quelle est leur politique africaine? Bon, disons, lorsque un président français arrive au pouvoir, ils se disent qu'ils ont des politiques africaines. Normalement, ils ne doivent pas avoir de politique africaine, mais disons, quelle est la vision de RN, je veux dire, de Front National, ou bien de Marine Le Pen et toutes ses anses?
D'accord.
La
D'accord, Fabrice. On est quand même, je veux dire, il y a encore des citoyens dans ce pays qui pensent que l'extrême droite n'arrivera pas à Matignon. Il y en a encore qui y croient et qui se battent. Donc, hypothèse, qui souhaite répondre?
L'histoire nous a montré que, à l'échelle internationale, la gauche comme la droite ont toujours cultivé la France-Afrique. Ça n'a pas changé. Donc le fait que ce soit demain le RN qui arrive à Matignon, c'est pas pour autant que Total ou telle autre grande entreprise Areva sur le continent va modifier sa répartition des richesses au profit des Africains. Ça, je n'y crois pas. Deuxièmement, on le sait aujourd'hui, en coulisses, les Bardella, les Marine Le Pen rencontrent justement les grands dirigeants, lesquels veulent s'assurer que s'ils arrivaient au pouvoir, eh bien, rien ne changerait. Donc les personnages changent, mais le scénario, lui, ne change pas. Raison pour laquelle, j'en reviens toujours à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de l'intérieur, c'est notre liberté qu'on doit construire. C'est la force de l'intérieur qu'on doit construire. Il ne faut pas attendre de complaisance. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc il ne faut pas attendre que le RN vienne tourner la page.
Et dans le même temps, alors là, effectivement, Fabrice est à Abidjan, dans le même temps, je me souviens de cette première émission des funérailles des tabous, et avec Mutombo, justement, on avait eu ce petit moment d'échange un peu viril, où je disais, il y a des millions d'Afros pour qui ce pays est leur pays, et ils n'en partiront pas. Et alors là où beaucoup disent, mais non, mais il faut pouvoir se dire, on va rentrer. Et certains se disent non, ce pays est le mien, j'ai pas de pays de repli, c'est le mien. Alors avec Philippe, on a la Guadeloupe. mais voilà, et ça aussi, on peut l'entendre et comprendre qu'il faut une véritable implication des uns et des autres dans la vie du pays où ils vivent.
Mais ça passe par une organisation qu'il faut qu'on mène aussi nous-mêmes.
Ne me fais pas aller trop loin dans le propos. Justement, il nous reste très peu de temps et c'est dommage qu'on avait plein de choses à écouter, des extraits des funérailles des tabous. Il y a quand même un artiste qui, en ce moment, reprend quelques éléments de l'actualité et il parle de Dream Big. Il dit « Quoi qu'il arrive, nous on rêve grand ». Et dites et faites ce que vous voulez. Admiratif. Batman, police, politique, t'es où, homo, tout mon aka respecte, non. Mon gabale, pale, y'a yo, si les raisons ne pas même garer, pony, yo, pussy, ça va qu'affecte, non. Nous gabayons mal, tête qu'on a y'a nakamura. Et gay, ça l'ange, ni trois petits mouns là. La France, tu n'aimes ou tu la quittes, raciste hypocrite, ça qu'a fait yo, shit, c'est des fois les petits bambous là. Calvin, big, 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 big,
tu l'aimes ou tu la quittes, là c'est hypocrite. Le petit nec ta merde. On va la balle, tu sois tu guada, panda son Jamaica, son la capette comme elle est un mauvais benga benga. Nous cabayons mal, t'es qu'on voyait la.
Admiral Chief featuring Pantason pour Dream Big. Gros titre. Gros titre. Alors, justement, tu as parlé, tu as évoqué Césaire tout à l'heure, et il a samplé Césaire qui dit « Le petit nègre vous emmerde ». Alors, il reprend aussi le propos de Nicolas Sarkozy, « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Il rappelle Aya Nakamura et toute la polémique et le racisme hypocrite de ce pays, et il dit qu'il y a une forme de jalousie envers tous ces afros qui réussissent, et tous les racistes n'en peuvent plus de voir ces afros ici et là réussir, pas que dans le monde de la culture. C'est ce que nous dit Admiralty. J'aurais voulu que l'on écoute Fleury, justement, sur la question de la santé mentale. Au funérailles des tabous, vous recevez beaucoup de monde. Vous recevez aussi celles et ceux que les médias mainstream ne reçoivent plus, comme si les médias étaient devenus des tribunaux. Et je pense à Dieudonné, c'est la dernière interview et qui fait aujourd'hui parler. Dieudonné qui va se présenter en Guadeloupe. Je voudrais qu'on écoute un extrait de cet entretien avec Dieudonné.
Un homme noir en laisse. Oui, bah c'est exactement la situation de mes ancêtres, de vos ancêtres, voilà, nous en sommes là. Et on ne s'est pas encore libéré. Ce petit bracelet, là, il me parle à l'oreille et il me raconte tout ce qu'ont pu vivre mes ancêtres, quoi. Grâce à ce bracelet, quelque part, qui me rappelle qui je suis. Je suis un esclave, je suis un homme noir qui est considéré comme un animal. Et c'est comme ça. Et c'est ce que sont en train de dire les Kanaks. C'est-à-dire, on ne peut plus de ça. Est-ce que tout homme noir, à un moment donné, même ceux qui collaborent avec le système, sont obligés de dire, ouais, c'est vrai, même quand on réussit, c'est pas, on reste un nègre. Ah, mais, même quand on devient président d'un pays africain, on reste un pauvre nègre. En France, j'ai toujours été noir. On va dire, tiens, c'est le petit noir, c'est machin, c'est le noir. Donc, j'ai été noir et métisse, moi, dans ma vie, vu comme tel. On m'a jamais dit que j'étais blanc. J'ai aucun moment de ma vie, j'ai été blanc. Moi. Donc, on dit que quand on a une mère blanche et un père noir, on est métisse. Bon, mais ça, c'est ce que c'est qu'on a envie de le dire, qu'ils le disent. Bon, moi, je m'appelle Dieudonné Mbala Mbala. Je suis. Oui, c'est mon histoire. J'ai une mère blanche et bretonne. Mais je ne suis pas blanc.
Ça n'a pas été contesté, ça, à l'intérieur de la communauté, justement, des afro-descendants que vous soyez métisse, que vous ayez une mère blanche et un père noir, est-ce que vous aviez le droit de prendre la parole, représenter.
Malcolm X était clair, ils étaient métis, tous les noirs américains sont des métis.
Et puis Bob Marley est métis. Et puis, alors l'entretien a été mené par Philippe. Était-il facile? Est-ce que vous êtes posé la question? Faut-il recevoir Dieudonné? Je vous pose la question, je me fais l'avocat, je joue le candide, hein, un peu l'avocat du diable, parce que dans Couleur Tropicale, nous diffusons les sketchs de Dieudonné.
Est-ce que vous seriez prêt à l'inviter sur le plateau?
Oui, bien sûr. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit avec Annabelle, il va revenir, il est déjà venu, hein, il est déjà venu dans Couleur Tropicale, évidemment.
Ok. Bah, écoutez, moi je lui ai posé cette question au début, est-ce que... le fait de faire une interview de Dieudonné, c'est dangereux aujourd'hui. Ben voilà, il m'a répondu, ben, je pense que non, mais effectivement, il y a des représailles, il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a des institutions qui coupent les choses. Voilà.
Et puis, ce qu'il dit nous rappelle une phrase de Fanon, Le noir n'est pas un homme, c'est un homme noir. C'est une célèbre phrase de Fanon et c'est ce qu'il nous dit dans sa détresse. On peut comprendre, ça fait plus de 20 ans qu'il subit et on peut comprendre que ce soit un homme blessé.
C'est vrai qu'on peut le comprendre. On ne peut que lui accorder toute notre compassion. Il a mené un combat à son niveau, même si moi, à titre individuel, pour ceux qui connaissent mon obédience, je ne peux émettre que quelques réserves. Néanmoins, je reviens à mon propos initial. À mon sens,
et on peut aussi regretter des propos qu'il a tenus.
C'est plus qu'évident. Voilà. Moi, je reviens à mon propos initial. Aujourd'hui, nous avons le devoir de tenir un discours volontariste qui s'axe sur la volonté de puissance, sur la jeunesse. Leur dire que on est perçu que comme des esclaves, quand bien même ce serait vrai, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux.
Oui.
Eh bien, ça peut contraindre beaucoup de jeunes à baisser les bras à la moindre difficulté venue. Donc il faut aussi leur dire qu'ils étaient aussi des rois et qu'ils peuvent briser cette chaîne et redevenir ce que certains de leurs ancêtres furent.
J'aurais voulu que l'on écoute également, qu'on parle de religion. On a un auditeur, Deo Gracias, depuis Kisangani en RDC, qui voulait lui aussi évoquer l'attachement des Congolais à l'Église, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bonsoir, Claudie.
Très vite. Comme il nous reste très peu de temps et il y a encore les chroniqueurs qui veulent poser des questions, que voulais-tu nous dire de façon concise?
Oui, de façon concise, je voulais préciser à tout le monde parce que vous savez, au Congo, il y a pas mal d'églises. Dans une Algérie même, vous pouvez trouver plus de 10 églises, 15 églises. Alors, plus les jeunes sont prêchés, plus ils écoutent la parole de Dieu comme ils le disent, ils ont du mal à se positionner par rapport à la situation de leur pays. Imaginez, à Nord-Est, pour l'instant, il y a la guerre à l'est du pays, mais il y a des jeunes qui se donnent la peine d'aller prier en espérant que la prière peut leur aider à sortir de cette guerre, au lieu de batailler, de travailler dur. Et vous allez constater même c'est devenu un commerce pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils pensent toujours commencer par une église et après se tirer de l'argent auprès des hôpitaux. Donc je m'aimerais ici appeler tout le peuple congolais d'être conscient et de ne pas se laisser dans l'église. Et à deuxième point, j'allais conseiller la jeunesse congolaise de fait parce que notre jeunesse est en perdition. Il y a des autorités politiques qui nous maltraitent, mais malgré tout, les jeunes sont là. Lorsqu'une autorité arrive dans une ville, ils sont les premiers à partir vers cette autorité, chamer. La clameur, là, c'est la flatterie. En réalité, ils souffrent comme pas possible. Et j'aimerais rappeler encore à tous les jeunes Congolais d'être conscients et de prendre leurs responsabilités à mettre, car c'est eux.
C'est ça. Deo Gracias, je sens que tu as envie de parler, d'aller jusqu'au bout, mais je suis obligé malheureusement de te couper dans ton élan, puisque tu parlais de religion, d'église. Il y a une émission magnifique des Funérailles des Tabous avec Mawete, qui est extraordinaire sur la spiritualité. Et je recommande à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent d'aller écouter ce programme des Funérailles des Tabous. Laura, on laisse Laura poser la dernière question.
Bien sûr, je suis
d'accord. Mais vraiment, c'est en très peu de temps.
Ça marche. Bah, du coup, j'aurais souhaité en fait avoir votre avis sur le phénomène d'actualité. De plus en plus en fait, de jeunes noirs, afrodescendants et africains votent et assument voter pour les partis d'extrême droite. Pourtant, ce sont des personnes, comme je vous dis, d'origine africaine, mais ils sont français. Donc, quelque part, ils votent pour leurs intérêts. Qu'est-ce que vous
20 secondes pour répondre.
Personnellement, je ne pense pas que ce soit que voter pour les partis va changer quelque chose. Herman le disait tout à l'heure. Nous, au-delà de ça, on parlait d'excellence aujourd'hui. Je pense que pour nous, l'excellence est la meilleure chose à faire. Et nous, aujourd'hui, on organise aujourd'hui un voyage. On amène les Africains d'Afrique de la diaspora, justement, à aller en Chine, faire du business, trouver des choses qui peuvent ramener en Afrique pour construire des choses en Afrique et même dans la diaspora. Et pour moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire aujourd'hui que d'être dans les histoires de partis, etc.
Alain Sabino, Ludovic Herman, Wanda et Philippe Sabino, merci infiniment.
Là, il a cassé le moteur, c'est fini.